France Inter.
Camille Laurence, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous ?
J'écris pour rester vivante dans la langue, parce que la langue vivante, c'est évidemment celle qu'on parle, mais c'est surtout celle qu'on lit, celle qu'on écrit, celle de la littérature.
La plus belle phrase de la littérature selon vous ?
J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimée.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre ?
Je pense que ça serait « Un invincible été », c'est la phrase d'Albert Camus. « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ».
Une qualité indispensable pour écrire ?
L'oreille. Je pense qu'il faut de l'oreille pour écouter le monde et ensuite pour se relire.
Un défaut indispensable pour écrire ?
L'oubli du monde extérieur. Je crois que la phrase que ma fille m'a le plus dite enfant, c'est « Maman, je te parle ».
Romancière, autrice ou écrivaine ?
Écrivaine.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassel.
Bienvenue dans Etc. Cette semaine, on parle de l'un des romans les plus remarqués et commentés en ce début d'année, Ta promesse, de l'écrivaine Camille Laurence. Gilles, personnage central du livre, fait promettre à la narratrice Claire de ne jamais écrire sur lui. Elle lui fait promettre en retour de ne jamais la trahir. Ni l'un ni l'autre ne respectera sa promesse. Le roman mélange les genres, on alterne entre différents points de vue, des scènes de procès, des monologues intérieurs, des poèmes, une dystopie même, comme autant d'outils au service de la vérité complexe, protéiforme. La narratrice est obsédée. Il lui faut déconstruire, décortiquer, disséquer cette histoire pour comprendre comment la manipulation a pu opérer chez elle. On évoquera ce qu'on nomme la perversion narcissique, qualifiée dans ce livre de mal du siècle. Ce que vous montrez surtout, Camille Laurence, c'est comment la culture sauve, comment elle met en garde. Pour se protéger des pervers, il faut les avoir croisés au moins une fois, dans la vie, dans la littérature ou au cinéma. Camille Laurence nous lira d'ailleurs un extrait des Liaisons dangereuses, chef-d'œuvre du XVIIIe siècle de Chauderlot-Delaclos. Bel exemple d'un binôme pervers qui cherche à briser une femme. Tout cela en compagnie de nos libraires francophones qui, comme chaque semaine, ont préparé des questions pour notre invité et des conseils de lecture. Vous écoutez Etc. C'est parti.
Etc.
Camille Laurence, rebonjour.
Bonjour.
Alors j'ai à peu près 90 000 questions à vous poser, mais la première, celle qui me travaille depuis la lecture de votre livre, est très simple. Pourquoi l'avoir écrit ?
Ben, je l'ai écrit parce que je travaille depuis très longtemps sur les sujets qui m'intéressent, et le sujet de l'amour et des illusions de l'amour. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'en ai l'expérience, parce que je pense que l'amour est la chose la plus importante de la vie, et qu'en même temps je suis attachée à la vérité. Donc il se trouve que là c'est une histoire d'illusion. Il faut traverser les apparences de l'amour pour trouver quelque chose qui ne ressemble plus du tout à l'amour.
On est d'accord que le titre a un petit air de défi quand même. C'est pas la promesse, c'est pas nos promesses, c'est ta promesse. Sous-entendu, vois ce que j'en fais.
Oui, c'est vrai, je dois dire.
Écrire sur un homme qui vous a demandé de ne pas écrire sur lui, n'est-ce pas une manière pour la narratrice de rationaliser, donc de reprendre le contrôle et de prendre l'ascendant à son tour ?
Évidemment, c'est la grande chance de cette narratrice qui est écrivaine, c'est qu'elle a le moyen de tirer les ficelles à son tour.
Oui.
J'emploie ce mot à dessein, puisque le personnage masculin, Gilles, est metteur en scène spécialiste des marionnettes. Et il y a tout un travail de perversion et de manipulation dont elle est victime. Et le fait de décrire finalement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui fait promettre de ne pas écrire sur lui, c'est parce qu'il sait que c'est une menace.
Mais malgré tout, on pourrait se dire que c'est ambivalent d'écrire sur la perversion. Un pervers pourrait se servir presque de votre texte pour se victimiser davantage. Vous y avez pensé ?
Non, je dois dire, pas vraiment. C'est vrai que ça fait partie de la pathologie ou du tableau, le fait de se victimiser alors que on est le bourreau. Hein. Mais non, j'ai pas vraiment pensé. Vous me donnez un aperçu différent.
Pardon.
Sur le texte.
Est-ce que dans cette idée de promesse, au fond, ce que Gilles redoute, c'est qu'on atteigne son image ?
Oui. parce que c'est un masque en fait qu'il porte en permanence, sous lequel il n'y a pas vraiment de visage, il y a une sorte de vide existentiel, et donc évidemment si on enlève ce masque, eh bien on voit rien en fait.
C'est ce qui lui fait peur.
Ben oui, parce que il se remplit de l'admiration des autres, il a besoin du regard des autres, oui, de leur admiration, de leur amour, il a besoin de les contrôler, d'avoir une emprise sur eux, et dès que ce lien de soumission finalement ne fonctionne plus, il se trouve comme un néant.
Et sachant ça, se mettre avec une romancière, c'est dangereux.
Oui, c'est dangereux, c'est une prise de risque, mais peut-être que quand on est très narcissique, on se croit tout puissant, donc on ne pense pas qu'on prenne un tel risque.
C'est le défi de trop.
Voilà, oui, ça arrive.
Comment on fait en tant que romancière pour ne pas tomber dans la vengeance pure et dure? Alors moi j'ai une piste, c'est que vous ne vous épargnez pas, en tout cas la narratrice ne s'épargne pas. Comment on fait pour pas basculer du côté de la vengeance?
Je sais plus si Bresson, c'est un cinéaste qui disait il faut aimer tous ces personnages, même les monstres, et j'étais très attentive à cela en écrivant le livre, c'est-à-dire que je voulais que le personnage de Gilles soit en quelque sorte repêché, rattrapé, qui à la fin notamment, j'ai construit le livre, un petit peu d'ailleurs le film qui m'a inspirée, c'est Citizen Kane, d'Orson Welles.
Ce puzzle.
Et où on voit un homme qui n'est pas très aimable, qui est d'ailleurs détesté, un grand patron de presse, qui a divorcé plusieurs fois, qui est vraiment très très peu aimable, et on comprend à la fin que il a été aussi marqué par une enfance très très difficile, et voilà, moi c'est un éclairage que j'aime bien aussi avoir sur mes personnages, c'est-à-dire que l'enfance qui en eux les a blessés et peut-être détruits parfois.
Mais ça n'excuse rien.
Non. Non, bien sûr, parce que alors si on commence à dire « Ah ben oui, mais ce n'est pas sa faute
», on s'en sort plus.
Non.
Il vous inspire quoi, justement, ce personnage de Gilles? Qu'est-ce qu'il y a d'aimable en lui?
Ce qu'il y a d'aimable, tout dépend de quel point de vue on se place. Ce qu'il y a d'aimable au début, c'est son charme, c'est une espèce d'opacité aussi. C'est-à-dire que je crois que pour que le désir dure, il faut qu'il y ait un mystère. Et bon, il ne parle pas beaucoup, il n'exprime pas beaucoup ses sentiments, sinon par phrases toutes faites, qui devraient d'ailleurs l'alerter. Comme elle est très sensible aux signes les plus ténus, elle voit aussi la fragilité de cet homme. Il y a une fragilité.
Mais qu'est-ce qui lui inspire, au fond, de la pitié, surtout après cette histoire de la pitié, du mépris, de la colère? C'est quoi le sentiment qui domine?
Mais je crois que c'est aucun de ces sentiments-là exactement. Je pense que c'est d'ailleurs un personnage, Claire, qui n'a pas assez de colère en elle, qui devrait souvent, et je pense que peut-être les lecteurs ou les lectrices se le disent parfois, et même ses amis dans le roman ont envie de la secouer, lui dire « mais enfin, ça suffit ». Elle n'a pas assez de colère, elle est dans une compréhension de l'autre, dans une indulgence même, qui est peut-être sa faille à elle, parce qu'elle veut tellement être aimée qu'elle est prête à tout comprendre et peut-être à tout accepter. Et la lisière de l'irrespect, elle l'a franchie, elle la laisse franchir, en tout cas, allègrement.
Ça m'intéresse, on en reparle dans quelques instants. Camille Laurence, vous restez avec nous. On entrera dans les étapes de la mécanique du pervers, une mécanique en trois temps que vous analysez de manière chirurgicale: séduire, réduire, détruire.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
Et si tu cherches encore la voie, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom
et Pomme, ma meilleure ennemie.
Etc. Lilia Hassen.
Et nous sommes toujours en compagnie de Camille Laurence qui publie Ta promesse, ou l'histoire de Claire, romancière qui tombe amoureuse de Gilles, prince charmant qui est en réalité sadique et sacrément tordu. Je ne dévoilerai pas tout, mais ça va loin. On aurait pu s'attendre à un roman témoignage, mais pas du tout. Le texte est construit de telle sorte qu'on suit la narratrice au présent, à la fois dans ses pensées, ses petits arrangements avec la vérité parfois, comme tous les amoureux qui cherchent à plaire. On la suit à chaque étape de son histoire et cette construction, elle a énormément plu à nos libraires. Mac Viennot, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mike, vous êtes libraire à la librairie Médiapol de Montréal et en préparant l'émission, vous me disiez que vous étiez très sensible à cette structure du roman.
Oui, immédiatement, je veux mentionner que j'ai adoré ce roman parce que justement, il y a une structure différente. Camille Laurence, vous nous amenez un faux suspense au début, la structure est particulière, ce qui fait que vous appâtez votre lecteur et puis ben, finalement, par la suite, on ne s'attend pas à la fin, mais on veut voir le parcours. Cette manipulation de ce personnage de Gilles, cette façon qu'il a justement de couler le couple, Claire, elle est prise dans cette relation et le faux suspense du début nous autorise, nous permet de mieux nous approcher de Claire. C'est fascinant parce qu'il y a, quand même plusieurs romans sur la violence masculine qui sont sortis depuis quelques années, depuis quelques temps. Mais ici, on sent vraiment qu'il y a une manière personnelle, une approche, une variété dans la forme, dans l'écriture, dans la narration. Et inévitablement, tout passe par le message de Claire. Parce que oui, il y a un message que Claire veut nous apporter. Il y a surtout un souffle, un cri souvent étouffé qui, au début, semble mener vers une forme de roman, je dirais, un peu policier, judiciaire même. Mais la notion judiciaire passe vraiment à côté de ce qui nous importe, c'est-à-dire les réactions et les émotions de Claire.
Mike, vous aviez une question sur l'une des forces du texte, la présence de poèmes, notamment.
Oui, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans votre roman, c'est qu'il y a des passages en forme de poèmes ou on pourrait même dire des paroles de chansons. En fait, ça crée un rythme musical, il y a une ambiance sonore, un battement, un peu comme un pouls, on pourrait penser à un genre de battement de cœur. Ça me donne l'impression qu'il y a un accès aux pensées de Claire, un éclaircissement vraiment. Puis au-delà de toute la notion juridique et du récit juridique, c'est comme si Claire se permettait d'être elle-même. Elle se permettait d'être Claire, justement. C'est-à-dire Claire en tant que personne et Claire en tant que personne lucide. Dites-moi, est-ce que ces poèmes vous permettent de libérer la parole différemment?
Oui, c'était des moments où, comme vous le dites, il fallait que Claire ait à la fois une parole plus directe pour exprimer un chaos, une sorte de chaos intérieur, là où le roman, la phrase, la syntaxe classique, la ponctuation ne pouvaient pas convenir. Et puis aussi, comme ce sont des poèmes qui sont tous écrits avec le pronom « on »,
c'est ce que j'allais vous dire, oui.
Pronom indéfini, des moments où ça commence en général par « on est là », donc oui. une pure présence, comme enfin, l'espèce d'immanence de toute la poésie, et une façon d'embarquer tout le monde avec elle aussi, parce que « on », c'est tout le monde, c'est à la fois l'inconnu, l'indéfini, en même temps, étymologiquement, c'est l'homme, donc l'humain, oui. Et donc, pour que tout le monde soit avec elle.
C'est ce qui est étrange et intéressant dans ces parties poétiques, justement, c'est que c'est à la fois très personnel, et en même temps, il y a une forme de distance.
Voilà. Je crois que c'est induit par à la fois le on et le temps présent, l'absence de ponctuation, quelque chose de décalé.
Et c'est pas une manière pour la narratrice d'avoir accès aussi à son inconscient. Moi, je me suis dit que cette distance aussi du pronom.
Parfois, mais ça dépend des
ça
moments.
Dépend des passages.
Ça dépend des poèmes. Parce qu'il y a un poème au moment où elle apprend sa trahison. Mmh. C'était parce qu'il n'y a plus de syntaxe, il n'y a plus que des mots.
Il n'y a presque plus d'identité.
Voilà, exactement.
Camille Laurence, dans votre livre, on suit toutes les étapes de la manipulation. Il y a d'abord la phase de séduction, tout va bien, c'est le prince charmant. Et c'est la période où Gilles se renseigne sur Claire. Il se renseigne en lisant ses livres, il la fait parler, il interroge sa fille. Qu'est-ce qu'il cherche ?
Il cherche à la connaître entièrement pour voir quelles sont ses failles. Alors évidemment, elle l'interprète positivement, une curiosité amoureuse.
Oui. L'intérêt.
Voilà. Mmh. Et en fait, c'est pour savoir ensuite où frapper, quelles sont ses failles, éventuellement ses forces, pour les utiliser ensuite contre elle.
C'est ce qui distingue le pervers du donjon.
Oui, parce que le pervers veut faire mal. Parce qu'on peut être donjon, on passe d'une femme à l'autre, voilà, on sent, c'est classique, j'allais dire. Pervers, c'est plus retors, parce qu'il y a vraiment l'idée qu'il vit d'autant mieux que l'autre perd de sa vitalité. Il tire sa propre vitalité, sa propre énergie vitale de la déperdition de l'autre, jusqu'à la destruction.
C'est l'image du vampire.
Oui, exactement. C'est vraiment une image de vampire, oui.
Tout va bien en apparence, donc à ce moment de la séduction, mais il y a quand même des petites choses qui accrochent, un mot mal placé, une remarque déplacée. Il commet quelques erreurs. Vous dites que ça clignote en vous quelques secondes comme un néon mal réglé. J'ai adoré cette expression. Et ce qui me frappe, c'est que chaque fois que la narratrice a un doute, Gilles désamorce comme s'il avait un sixième sens.
Mais oui, parce qu'il est lui-même très subtil dans son genre, hein. ça n'est pas très très facile d'être comme ça. D'ailleurs, ça lui coûte beaucoup d'être attentif, parce qu'en général, en fait, les autres ne l'intéressent pas vraiment. Mais là, il a besoin d'être très vigilant, et donc à l'écoute de tout ce qui se passe en elle.
Parce qu'elle est quand même consciente, elle le dit d'ailleurs à un moment, qu'il est assez creux finalement. C'est pas quelqu'un qui a une pensée très élaborée. Qu'est-ce qui lui plaît tant qu'est-ce qui lui plaît tant à cette narratrice ?
D'abord, il est séduisant. Il y a quand même la séduction physique, le charme, l'intimité, la sexualité, tout ce qui est de l'ordre du charnel. Et qui pour elle est très important, et qu'elle a tendance à identifier à l'amour. Elle ne sépare pas le désir de l'amour, d'une certaine manière. Et puis aussi, effectivement, elle le trouve rapidement assez creux dans l'expression des sentiments, par exemple. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, et même dans la pensée. Mais... il est par ailleurs très cultivé, il a ce qu'on appellerait une intelligence cognitive et aucune intelligence émotionnelle, pour reprendre des termes de la psychologie.
En fait, il lui apporte quelque part ce qu'elle n'a pas. Moi, j'ai eu ce sentiment quand même qu'il y a une part d'animalité chez lui, même si elle a un instinct, mais son instinct est un peu endormi, et on a vraiment le sentiment que lui, il a cette part animale, charnelle, prédatrice, en fait, qui est attirante aussi.
Oui, mais il y a aussi une sensibilité, par exemple, quand il joue du piano, elle se dit, il ne sait pas parler, mais il a un autre mode d'expression, et puis c'est un homme, c'est normal, les hommes expriment moins leurs sentiments. Enfin, elle lui trouve toujours
des excuses,
et ça devient la source même de son charme, en fait, la différence avec elle.
Mais c'est la grande question du livre, à mon sens. Le fait d'être romancière, est-ce que ça la protège dans cette histoire, ou ça la rend au contraire plus vulnérable parce que plus indulgente?
Je ne sais pas si c'est le fait d'être romancière qui la rend plus indulgente, parce que mais ça devrait être un atout d'être romancière, parce que là, comme elle dit, une espèce de sismographe. Là, c'est un peu comme les médecins, les écrivains, ils sont à l'affût du moindre signe, du moindre indice de sensibilité, ou de et puis l'oreille, comme je disais tout à l'heure, ils entendent ce qui ne va pas dans les paroles, bon, les mensonges, enfin, normalement. Mais l'amour fait que ça endort un petit peu toutes ces qualités.
Mais d'ailleurs, elle le sait, parce qu'à un moment, vous écrivez « Quelqu'un en moi se moquait de moi, celle qui écrit sans doute, celle qui lit ».
Oui.
En fait, cette partie n'est pas endormie, elle est là.
Oui, elle est là, mais il y a une sorte de, pas de dédoublement, mais de mise à distance de la personne rationnelle, peut-être pas, mais lucide, au profit de, oui, comme vous disiez, d'un être plus...
corporel.
Plus corporel, voilà, plus incarné, plus sensible, au sens vraiment aussi de la sensualité.
Et je parlais du piège d'être romancière, mais parce que le fait d'être romancière, c'est aussi avoir une capacité, une envie, une curiosité. C'est l'envie aussi de se mettre à la place de l'autre.
Oui.
Ça peut constituer quand même un piège.
Oui, bah c'est la grande qualité, me semble-t-il, des romanciers, c'est l'empathie, c'est être capable de comprendre l'autre, ce que j'appelle l'intelligence de l'autre. J'aime beaucoup cette expression, parce que l'intelligence, étymologiquement, c'est interligérer, faire des liens entre les choses, et donc relier des éléments, des mots, des signes physiques, se dire, tiens, là, voilà, ça veut dire ci et ça. Et donc de comprendre ce que ça signifie. Donc l'empathie, c'est une grande qualité pour créer des personnages quand on écrit. Et là, cette empathie lui sert surtout à excuser Gilles, à dire, bon, ben voilà, elle le comprend, elle se dit là... Elle lui trouve des excuses, y compris dans le fait que c'est un homme, dans son éducation, dans la façon dont elle rencontre sa mère. Voilà, elle se dit, voilà, il a souffert, il a... Puis lui-même le dit, d'ailleurs. Lui-même, on a l'impression qu'il a été victime et de son enfance, de sa mère, de ses ex... Enfin,
et victime donc, de tout le monde.
Voilà, et donc elle se dit, et c'est ça sa pathologie à elle, elle se dit, mais moi je vais le rendre heureux.
C'est ça, c'est la pathologie de vouloir se sentir unique.
Voilà, se sentir unique et d'arriver à faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire. C'est quand même une forme de narcissisme aussi.
D'orgueil.
Oui, d'orgueil, oui.
Vous écrivez quand même à un moment, parce que là aussi il y a quand même quelque chose, quand j'aime quelqu'un, j'aime aller dans son monde, je ne cherche pas à l'attirer dans le mien. Est-ce que la faille de la narratrice n'est pas là aussi dans le fait qu'elle s'oublie elle-même?
Oui, mais ça lui fait plaisir, en fait. Je crois qu'elle a envie de sortir d'elle-même. Elle dit même à un moment, elle pense qu'il va la demander en mariage, et elle dit que voilà, envie de changer de nom, de s'oublier en lui, en fait.
Mais est-ce qu'elle s'aime assez?
Non, mais certainement que ça va avec ses failles, hein, c'est-à-dire que non, sa vulnérabilité, c'est l'impression de devoir faire beaucoup de choses pour être aimée, de ne pas être d'emblée une personne véritablement aimable.
Parce que finalement, il faut toujours aller sur son terrain à lui, il faut habiter son appartement à lui,
voilà.
Il faut vendre son propre appartement pour acheter une maison.
Oui.
Donc c'est quand même beaucoup d'efforts.
Oui, mais elle le fait sans effort parce que justement elle se dit bah, c'est l'occasion de me renouveler en fait, de devenir une autre personne, parce qu'une rencontre au fond dans l'amour, qu'est-ce que c'est sinon être entamé d'une certaine manière par quelqu'un d'autre, donc par ses différences, et elle aime aller dans son univers, ça la change de sa propre solitude aussi.
Et lui ne se laisse pas entamer.
En non, lui du tout, voilà. Mais ça, c'est le signe caractéristique. Lui, ça ne l'intéresse pas d'aller chez elle. Il ne s'intéresse pas à ce qu'elle pense, à ce qu'elle ressent. C'est à sens unique, parce que lui n'a aucune empathie. Et voilà, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est ça qu'elle ne voit pas tout de suite.
Il y a de l'amour dans cette histoire ? Est-ce que c'est une histoire d'amour ?
Mais ça, c'est la grande question, et c'est d'ailleurs la question douloureuse pour elle, à la fin, quand elle se dit, mais est-ce que c'était de l'amour ? Parce que ça y ressemblait énormément, le début est absolument idyllique, on reprend même une phrase de Balzac, « Nous fûmes heureux comme vous rêvez tous de l'être », donc c'était l'idylle, la romance, mais ensuite, elle a l'impression que tout a été joué, et c'est très difficile, et c'est ce qui est peut-être le plus douloureux, très difficile de savoir si vraiment, depuis le début, tout est complètement faux, en fait. Ou bien si, comme dans tout amour, au début, il y a eu, malgré tout, une forme de, peut-être simplement, d'idéalisation, où il a été sincèrement amoureux. C'est ce que dit un de ses amis, Georges. Il dit, mais si, il l'aimait, il me disait tout le temps, je l'aime, je veux vieillir avec elle. Donc, voilà, ça fait partie de l'incertitude qui reste.
J'ai une phrase de mémoire qui me revient à un moment. On entre dans l'intériorité de Gilles et il dit si je l'aimais, je l'aimerais. Ou je ne sais plus la phrase exactement, mais c'est un peu ça. C'est, en fait, s'il était capable d'aimer.
Oui, si je l'aimais comme je l'aimerais.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire oui, il y a une possibilité. S'il pouvait aimer, voilà, il aurait beaucoup aimé cette femme. Mais il y a une incapacité.
Mais c'est presque un handicap.
Oui.
Camille Laurence, vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous irons explorer votre pays profond. On parlera littérature, mais aussi cinéma, parce qu'il y a énormément de références cinématographiques dans votre roman. Mais d'abord, on écoute Mon Légionnaire, version Serge Gainsbourg.
Il est parti dans le matin plein de lumière. sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Etc. Vous préférez la version Piaf ou Gainsbourg ?
Moi, j'aime bien Gainsbourg.
Ah. vous aimez le rock. Avant d'entrer dans votre atelier d'écriture, Camille Laurence, j'aimerais qu'on accueille Audrey Martel, libraire à la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières, au Canada. Audrey, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Audrey, vous avez aimé le livre de Camille Laurence « Sans réserve », m'avez-vous dit.
Oui, cette fois-ci, là, vraiment impossible de faire dans la nuance. J'ai adoré ta promesse. J'ai été choquée, troublée, en colère aux côtés de Claire, la narratrice. J'ai d'abord été séduite par cette histoire d'amour-là qui arrive quand on s'y attend pas. Les questions que ça pose, comment être follement amoureuse quand on n'est plus une adolescente. Puis j'ai été intriguée, voire même captive de cette histoire, comme l'est la narratrice, même si, moi je me doutais pas mal que ça allait pas très bien finir.
C'est annoncé depuis le début.
Oui, c'est ça. La construction narrative, les changements de personnages, le passage du « je » au « elle » au « on » comme le dont a parlé Mike, tout ça, ça m'a décontenancée, mais j'ai aimé le trouble, la confusion que ça provoquait chez moi, qui me mettait peut-être un peu dans le même état d'esprit que Claire. J'ai pas souvent vu dans un livre un personnage de méchant aussi crédible que les Gilles. Peut-être parce que malheureusement, c'est un méchant qui est trop commun, parce que des pervers narcissiques, on en connaît tous. C'est une histoire qui est dramatique et les bourreaux comme Gilles, ils courent les rues, puis on est tous un peu on a tous le potentiel d'être des victimes comme Claire. C'est peut-être aussi ça qui m'a fait autant réagir à la lecture de ce roman-là. D'ailleurs, il me semble que dans la culture populaire, on a vu plusieurs romances comme celle-là où des hommes comme Gilles sont idéalisés, perçus comme des défis dans lesquels la femme élue parvient à se faire aimer. C'est romantique tout ça, l'amour toxique, on l'a beaucoup vu dans la culture populaire. Ça a été même glorifié. Puis je pense qu'il était temps que des romancières comme vous, Camille Laurence, nous montrent le vrai visage de ces relations perverses. Donc, pour moi, La Promesse, ben, c'est un roman qui m'a tenue en haleine, qui m'a fait réfléchir, qui m'a choquée, qui m'a essoufflée aussi. J'ai tout aimé et j'ai vraiment hâte de pouvoir le conseiller en librairie.
Camille Laurence, vous voulez réagir?
Merci beaucoup. Je suis très, très sensible à ce que vous venez de dire. Ça me touche beaucoup de cette empathie justement entre lecteur et écrivain.
Audrey Martel, vous m'avez dit au téléphone hier que le livre vous avait fait penser, et je trouve que la comparaison est assez juste parce qu'il y a aussi une histoire de concurrence entre les deux personnages à Anatomie d'une chute.
Oui, c'est vrai. Ben oui, effectivement. Puis je pense que c'est logique d'une certaine façon de le comparer à un film parce que le cinéma est très présent dans le livre et en introduction, Lilia, quand vous parliez du fait que le personnage réalise ce qui lui arrive au moment où elle est mise face à un film, je trouve que c'est très intéressant cette analyse-là. Puis j'avais envie de vous entendre, Camille Laurence, sur les références littéraires et cinématographiques qui parsèment le roman.
Oui, ben vous avez raison, il y a beaucoup de références cinématographiques. Moi, je parlais tout à l'heure de Citizen Kane, donc c'est la construction générale de mon roman. Et puis, il y a les films que je cite.
Gaslight,
voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la narratrice voit en fait le regard, c'est dans le regard de Charles Boyer, voilà, qu'elle reconnaît un regard qu'elle a vu chez Gilles. Et puis, moi j'aime beaucoup les films d'Hitchcock, je pense qu'Hitchcock lui-même d'ailleurs devait être... c'était peut-être pas un pervers narcissique, mais en tout cas il y a de la perversion, de la perversité dans ses films, c'est vraiment son sujet. Donc des personnages qui sont ambigus, qui ont l'air comme ça charmants, et puis bon, c'est le cas aussi dans Gaslight, et qui s'avère être des assassins.
Oui, parce que Ingrid Bergman pense qu'elle est en train de devenir folle, il lui fait croire qu'elle est en train de devenir folle.
Oui, exactement. Mais c'est le but.
Oui, c'est le but. Et vous pensez que la culture peut sauver?
Ah oui, parce que j'en ai l'expérience moi-même. Il y a des livres, des films qui m'ont révélé certains, voilà, comme je le raconte, là, certaines choses, mais aussi des livres. Oui, je crois beaucoup. C'est-à-dire que la littérature donne des leçons d'existence.
Alors Gaslight explique très bien comment les pervers renversent la charge de la culpabilité. Et j'aimerais qu'on découvre justement une œuvre littéraire. C'est le classique de la semaine.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, etc. Lilia Hassen.
Camille Laurence, le pervers narcissique de votre livre, Gilles, n'a de cesse de répéter que ce n'est pas sa faute. Il parle de son ex-femme en disant « ce n'était pas ma faute si elle disjonctait ». Bref, il est victime de tout et de tout le monde en permanence. Et on en connaît un autre dans la littérature qui répétait « ce n'est pas ma faute ». C'est le libertin Valmont dans « Les liaisons dangereuses » de Chauderlot de Laclos. Vous avez accepté de nous lire sa fameuse tirade.
« On s'ennuie de tout, mon ange. C'est une loi de la nature. Ce n'est pas ma faute. » Si donc je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupée entièrement depuis 4 mortels mois, ce n'est pas ma faute. Si par exemple j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu, et c'est sûrement beaucoup dire, il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre, ce n'est pas ma faute. Il suit de là que depuis quelque temps je t'ai trompé, mais aussi ton impitoyable tendresse m'y forçait en quelque sorte, ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie. Ce n'est pas ma faute. Je sens bien que te voilà une belle occasion de crier au parjure, mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance, tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, choisis un autre amant comme j'ai fait une autre maîtresse. Ce conseil est bon, très bon. Mais si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange. Je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret. Je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde, ce n'est pas ma faute.
C'est magnifique.
Oui, c'est sublime. C'est vraiment, c'est une de mes grandes références, les liaisons dangereuses. Oui.
Est-ce que ces personnages sont faciles à décrire de l'intérieur, les personnages de pervers? Vous parlez de vide intérieur, d'absence d'empathie. C'est pas très littéraire comme matière.
Non, ce n'est pas très littéraire et ça m'a posé problème parce qu'à un moment, je me disais, je fais parler tous les personnages, bon, la narratrice, les témoins, les amis, est-ce qu'il ne faudrait pas que je le fasse parler lui, qu'on ait son point de vue? Et puis en fait, en examinant les choses, comme font les écrivains, une espèce de bricolage où j'ai essayé, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune capacité d'introspection, donc que dirait-il de lui-même? Il dirait juste « ce n'est pas ma faute », il dirait « mais non, elle n'a rien compris », donc ça n'irait pas loin. Donc c'est difficile de le faire parler, on est obligé de le regarder de l'extérieur et d'entrer dans cette inconsistance en fait, parce que c'est ça, il n'y a pas de personnalité réellement. Il y a un moment, elle dit, elle le regarde, elle le voit, la dérobée, il ne voit pas qu'il est assis, il ne voit pas qu'elle le regarde. Et elle dit, il n'y a personne et c'est toi. Mmh. Et c'est vraiment ça.
Oui, c'est vraiment ça. Et ce qui est vrai, c'est que donc, vous avez un chapitre où on entre dans son intériorité, mais il n'y a que des verbes d'action. Il n'est que dans le faire.
Oui,
en fait.
Oui, il n'est que dans le faire, mais c'est exactement ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'être, l'être n'est qu'une syllabe du paraître, donc tout est dans le paraître, donc on fait les choses pour faire croire à des sentiments, mais ce ne sont que des...
Du maquillage.
Du maquillage, voilà.
Vous l'avez écrit vite, ce livre ?
Non, mais de toute façon je suis très lente, quel que soit le livre. Et donc j'ai mis longtemps, et puis j'ai changé de forme, j'ai essayé des formes différentes, ça a été assez long.
C'est ce que j'allais vous demander, oui, parce que la structure est quand même très... on est vraiment dans une structure fragmentée volontairement, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses.
Oui.
Pour avoir une vision à 360, c'était nécessaire, mais ça a dû vous prendre beaucoup de temps.
Oui, j'ai beaucoup pensé. Mais l'architecture romanesque m'intéresse beaucoup, vraiment. Pour moi, c'est un roman tient par sa forme, sa structure. Et donc, j'y travaille beaucoup, oui.
J'ai une question plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a appris, ce livre ?
Qu'est-ce qu'il m'a appris ? Il m'a appris ce que je savais déjà, que la littérature sauve.
J'ai trop fumé de cigarettes et là je pense à toi. En rentrant d'aller boire un verre avec des filles que tu connais pas. J'aurais aimé ne pas me sentir seule. Je crois que ce garçon me plairait, mais bien sûr j'y vais pas. Il cache sûrement un lourd secret, ou pourquoi voudrait-il de moi? Tu voulais me faire sentir seule. Ouais, je t'aime et t'aimerais, mais tu me rends minable et j'aimerais pas partout. Moi je t'aime et t'aimerais, mais tu me rends minable. J'ai arrêté les cigarettes et j'ai plus peur de toi. J'ai recommencé à faire la fête, à ne plus avoir peur de moi. Tu voulais me faire partir seule. Y'a toujours un nouveau chemin que j'avais pas vu en moi. On soigne un trauma à la fois, pourquoi y'a pas de médaille pour ça? Tu prédisais mon avenir seule. Moi non plus je ne voulais pas que ça s'arrête comme ça, mais tu n'écoutes que toi. Moi non plus je ne voulais pas, mais tu me rends minable.
Rater une rupture pour les nuls. Et on part tout de suite à Lyon pour le coup de cœur de la semaine. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui une toute nouvelle libraire, Géraldine Tauzin de la librairie L'Astragale à Lyon. Bonjour Géraldine et bienvenue.
Bonjour.
Vous nous parlez d'une pépite de la rentrée de janvier aux éditions de l'Olivier et il s'agit d'un portrait d'homme plutôt émouvant cette fois.
Oui, Lilian, mon coup de cœur absolu du moment, c'est le nouveau roman de Florence Sévos qui s'intitule « Un perdant magnifique ». Et quand je dis coup de cœur, c'est à prendre au pied de la lettre, car ce roman m'a frappé au cœur, tant il est beau, émouvant, sensible et subtil. Le perdant magnifique du titre, c'est Jacques, qui est le beau-père de la narratrice, Anna, une jeune fille de 16 ans. Jacques, c'est un adulte, mais il a des élans, des enthousiasmes et des radicalités d'enfant. Il est excessif, imprévisible, fantasque et on pourrait presque dire fou. Mais ce qui le rend tellement attachant pour nous, c'est l'amour et l'infinie tendresse que lui porte Anna, en dépit de tout. Cet homme, qui n'est pas un homme respectable, mais généreux et entier, nous l'aimons, nous aussi, et nous posons sur lui un regard indulgent et doux à travers elle et par elle.
Ah, l'indulgence des femmes, décidément. Qu'est-ce qui vous a tant touchée dans ce livre, Géraldine ?
Eh bien, c'est ce qui, pour moi, fait le prix de tous les romans de Florence Sévos, son style, son écriture qui m'émeut et même me bouleverse. Par des petits riens, des simples mots, des détails infimes, elle provoque des émotions d'une intensité rare. Ces mots troublent le lecteur, comme ce frisson que l'on ressent parfois quand on découvre que quelqu'un d'autre a compris et exprimé ce qui était enfoui au plus profond de nous. C'est une vibration, pour moi c'est de la magie, c'est un émerveillement qui n'est pas si fréquent quand on lit. Et c'est pourquoi je recommande ardemment ce roman profond et émouvant, ce roman magnifique.
Merci Géraldine, le titre c'est donc « Un perdant magnifique » aux éditions de l'Olivier et c'est de Florence Sévos, prix Goncourt du premier roman en 1995, figurez-vous, pour son livre « Les apparitions ». Camille Laurence, dans votre livre, on constate aussi, du point de vue de la narratrice, une forme de pathologie de répétition, c'est-à-dire que Gilles, c'est pas le premier.
Oui, effectivement, elle a eu notamment un mari, elle a été mariée, et on peut retrouver beaucoup de points communs avec Gilles, et peut-être, dit-elle, avec... au moins un autre homme avec qui elle a vécu. Et ça m'intéressait beaucoup aussi cette question de la répétition. C'est-à-dire qu'on répète, c'est névrotique, hein, c'est vrai que c'est une faille psychologique. On a tendance à répéter des scénarios de vie, alors même que ce sont des scénarios qui nous sont nuisibles. Voilà. C'est comme si on retombait inconsciemment dans les mêmes erreurs, en rencontrant le même genre de personnes toxiques. Ça se reproduit plusieurs fois si on ne fait pas du tout de travail. Et même si on en fait un, c'est très long. Travail d'introspection, travail éventuellement avec un psychanalyste, on reproduit de manière névrotique ces erreurs.
Oui, parce que Claire voit un psychanalyste, elle le dit même à Gilles,
oui.
Donc elle devrait être un peu plus protégée. Qu'est-ce qui fait qu'elle pense que Gilles est peut-être différent ?
Parce qu'il lui en donne toutes les apparences, il fait tout pour qu'elle pense qu'il est le prince charmant. Et ça marche parce que justement, elle n'a pas l'idée qu'on puisse lui vouloir du mal à ce point. C'est une disposition particulière hein, de voir le mal chez l'autre. On a tendance à se dire, surtout dans une relation amoureuse, l'autre me veut du bien, hein, puisque moi je lui veux du bien. On se croit en miroir en fait, et ça n'est pas le cas.
C'est intéressant, cette incapacité à avoir le mal. Vous écrivez cette phrase à un moment, « Je ne m'attends pas à ce qu'on me fasse du mal, même si je sais que le mal existe. » Et moi, quand je l'ai lu, j'ai eu le sentiment que c'était vraiment, c'est vraiment la phrase qui était au cœur du livre. C'est que finalement, il y a une forme de naïveté.
Oui, c'est une forme de naïveté. Enfin, c'est peut-être le...
Une protection, peut-être.
Une protection, ou peut-être la relative cécité amoureuse. C'est-à-dire qu'il y en a une sorte d'aveuglement. Mais parce qu'en soi-même, on ne sent que de bonnes choses. Quand on est amoureux, on se sent plein d'élan envers l'autre. Et on s'imagine que c'est réciproque. Donc oui, peut-être qu'il y a une forme de candeur.
Vous parlez de cécité, mais à un moment dans le livre, vous parlez aussi de la surdité.
Oui, mais de la surdité, parce qu'à un moment, elle entend dans la langue de Gilles, dans ce qu'il dit, et tout d'un coup, elle entend les clichés, elle se dit, mais enfin, il ne parle que par stéréotype, et tous ces mots d'amour sont faits des banalités qui ne recouvrent aucune réalité tangible. Et là, son oreille, la fameuse oreille de l'écrivaine, se réveille. Et là, elle entend le vide du langage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dialogues dans mon roman, parce que je voulais faire entendre à travers la langue le vide. Il y a la langue vivante, elle essaie dans la langue, d'abord et puis ensuite en écrivant, mais simplement même dans le dialogue, elle essaie vraiment de communiquer, d'échanger avec lui, de comprendre. Elle lui dit « mais il faut qu'on parle ». Et lui est incapable d'utiliser le langage comme une langue vivante, justement. C'est une langue morte, parce que lui-même est vide et d'une certaine manière, lui-même est mort à l'intérieur.
Oui, il emploie une langue qui ne communique pas. Dernière question, Camille Laurence, est-ce qu'on peut refaire confiance après une histoire comme celle que vous racontez ?
Ah ben alors, je verrai mon prochain roman, si Claire, puisque beaucoup de mes narratrices s'appellent Claire, si Claire va revenir dans l'amour. Mais en tout cas, elle a l'air d'y croire quand même à la fin du roman.
Il y aura une suite ?
Une suite, il y aura un autre...
Il y aura un autre roman, parce oui, que c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qu'elle devient, comment on se remet aussi de ce genre d'histoire.
Oui, oui, je pense qu'il y aura une suite, oui.
Merci Camille Laurence. On recommande votre livre, Ta promesse, chez Gallimard, un roman qu'on ne lâche pas et qui nous entraîne au fil des pages dans un cauchemar, un roman nécessaire sur les violences invisibles. Merci aussi à nos libraires du jour, Audrey Martel, Géraldine Tauzin et Mike Viennot. Je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter coproduite par les médias francophones publics. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Loïc Frapsos à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Ethel Alzial. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.